Deutsche Welle Carrefour Europe. Quelle Europe voulons-nous pour l'avenir ? La crise a montré la faiblesse de l'organisation actuelle de l'Europe et de la zone euro. Des mesures ont été décidées dans le domaine économique, mais cela va-t-il suffire pour convaincre des Européens très sceptiques ? Nous y revenons dans cette édition. Et puis nous tournerons nos regards vers la Roumanie. Dans ce pays, membre de l'Union européenne, mais qui a enduré une dictature féroce, l'éducation sexuelle est encore négligée. Résultat, des avortements à répétition en guise de méthode contraceptive, mais de jeunes femmes réagissent, comme nous le verrons sur place, et vous êtes les bienvenus. Les élections européennes de 2014 approchent. Cela pourrait être l'occasion de lancer un débat sur l'avenir de l'Europe. Sous le choc de la crise, les Européens, nous l'avons dit, ont en effet lancé des réformes sur une gouvernance économique de la zone euro. Mais au plan politique, rien ne se passe. Certes, des pistes sont régulièrement évoquées depuis l'élection du président de la Commission européenne au suffrage universel, jusqu'à la nomination d'un président de l'Eurogroupe à plein temps, sans pourtant qu'aucun véritable débat public n'ait lieu. Alors, pourquoi ce débat serait-il pourtant nécessaire ? La réponse du politologue Thierry Chopin de la Fondation Robert Schuman.
On a vu depuis 4 ans un certain nombre de décisions importantes qui ont été prises en matière économique pour essayer de surmonter la crise que traverse encore dans une certaine mesure la zone euro. Et ces progrès qui ont été réalisés, notamment en matière budgétaire, mais aussi en matière d'union bancaire, nécessitent également un débat qui ne doit pas être uniquement économique, mais aussi politique. Pourquoi ? Parce que ces décisions qui ont été prises pour essayer de surmonter la crise entraînent des transferts de compétences des États vers l'Union européenne. Et ces transferts impliquent effectivement que les décisions européennes doivent bénéficier d'une légitimité politique, démocratique plus forte aux yeux des citoyens. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, dans ce contexte, effectivement, un débat sur ce qu'on pourrait appeler l'union politique au niveau européen, je crois que ce débat doit être lancé. Effectivement, de ce point de vue, les élections européennes de 2014 constitueraient une très belle opportunité pour ce faire.
Vous y avez fait allusion. Les citoyens européens, dans l'ensemble, ont l'impression que les décisions sont prises de plus en plus par des institutions, des décideurs non élus comme à la Commission européenne ou même la Banque centrale européenne et que leurs représentants nationaux élus, eux, n'ont plus de pouvoir.
Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, que les institutions européennes non élues jouent un rôle de plus en plus important, c'est un fait. Pour certaines d'entre elles, j'allais dire, ça ne pose pas de problème particulier. Typiquement, on imagine mal une banque centrale effectivement être élue au suffrage universel direct dans des démocraties constitutionnelles comme celles dans lesquelles nous vivons en Europe. Les banques centrales sont indépendantes du politique et c'est sans aucun doute une bonne chose. Par contre, effectivement, la Commission européenne a été conçue initialement comme un organe, technocratique, et ce n'est pas du tout un gros mot, mais cette institution est de plus en plus politique, en tout cas dans les décisions qu'elle prend, notamment, encore une fois, en matière de surveillance, par exemple, des budgets nationaux, de nouveaux pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'effet de la crise, sans pour autant que sa légitimité politique ne soit renforcée.
Le budget étant le cœur d'un État.
Absolument. Les décisions en matière budgétaire étant le cœur de la souveraineté des parlements nationaux. Et donc, on a dans cet écart entre ces nouvelles compétences, ces nouveaux pouvoirs donnés à la Commission européenne et, la relative faiblesse de sa légitimité, dans cet écart-là, dans ce hiatus-là, effectivement, il y a une place pour la montée d'une forme de contestation des décisions qui sont prises au niveau européen.
Il y a un sentiment populiste de plus en plus fort en Europe, et notamment en France, par exemple. Est-ce que c'est ça le danger ?
Le danger, il est double en réalité. Cet écart favorise effectivement la montée des populismes de droite comme de gauche d'ailleurs, dont le discours, j'allais dire, s'alimente évidemment à la source de difficultés économiques que l'on connaît, mais qui s'alimente aussi à la source d'une contestation très classique finalement dans les populismes contre les élites politiques et administratives européennes considérées comme étant trop éloignées des citoyens, mais aussi, autre conséquence, je pense que si on ne résout pas ce problème de légitimité démocratique, eh bien je crois que la conséquence, c'est que les décisions qui sont prises en matière économique également seront de plus en plus contestées.
Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation Robert Schuman. Sujet tabou dans une Roumanie très conservatrice, fortement influencée par l'Église, l'éducation sexuelle est absente des manuels scolaires. Résultat, chaque année, quelque 17 000 accouchements de mineurs et 1500 abandons de nourrissons sont enregistrés. Pour combler ce vide, une jeune féministe, Adriana Radu, vient de lancer le premier site d'information vidéo sur la sexualité sur Internet. Notre correspondante sur place, Mihaela Carbunaru, l'a rencontrée.
Si tu es enceinte, tu as le droit de continuer tes études dans le cadre de ton droit à l'éducation. Si tu as 16 ans, tu as le droit d'aller sans permission de tes parents chez le médecin de famille, chez le gynécologue, chez le médecin pour le planning familial ou à la pharmacie afin de demander des informations, des services ou des produits liés à ta vie sexuelle.
La puberté, l'homosexualité, le droit des élèves enceintes ou encore la pornographie, voici quelques-uns des thèmes abordés sur le site Le sexe versus la cigogne. Ce site internet, destiné aux jeunes lycéens roumains, est censé compenser la pudeur qui règne dans l'enseignement roumain. Avec l'aide de plusieurs associations et un budget d'à peine 4000 euros, une jeune féministe est à l'origine de ce projet audacieux. Cheveux courts et débordante d'énergie, Adriana Radu, 23 ans, a enregistré une vingtaine de clips vidéo déjà disponibles en ligne.
Quand j'étais adolescente, je cherchais des informations sur la sexualité principalement sur Internet, sur des sites en anglais ou en français. On n'en a pas trop parlé dans ma famille. Je pense que, comme dans beaucoup de familles roumaines, c'est un peu un sujet tabou. On a voulu créer quelque chose de dynamique avec le projet. C'était très important pour nous de faire un projet en ligne et un projet vidéo.
Pour être au plus près des préoccupations des adolescents d'aujourd'hui, Adriana s'est entourée d'une jeune lycéenne. Monica Saoula, 17 ans, est en quelque sorte l'agent infiltré du projet.
Je peux donner des retours sur le sujet car je suis tout le temps en contact avec mes camarades de lycée. J'entends tout un tas d'histoires autour de moi, comme par exemple, je suis complexée car dans les films porno, j'ai vu qu'on doit ressembler à ça. Ce désir d'être parfait qui est complètement erroné se retrouve chez beaucoup d'adolescents. Ils prennent des infos dans les films porno, ce qui est une erreur colossale.
Alors que la religion est une matière obligatoire dès l'école primaire, l'éducation sexuelle est quasiment absente du système scolaire roumain. Une situation qui se traduit par des taux records d'accouchements de mineurs, d'avortements et de maladies sexuelles. Pour comprendre cette situation, il faut remonter à la période communiste, avant la chute du dictateur Ceaușescu. Raluca Popescu, sociologue.
Avant 1989, on ne parlait pas trop ou pas du tout de sexe. Les jeunes ne pouvaient pas s'informer. La politique de l'État était de faire le plus d'enfants possible. Et de toute façon, le sexe ne se faisait qu'à l'intérieur de la famille. La famille devait avoir un enfant. Il n'y avait pas de rupture entre la sexualité, la famille et l'amour. Tout était inclus dans la famille.
Sous le communisme, des dizaines de milliers de femmes ont été traumatisées suite à la politique pronataliste du régime de Nicolae Ceaușescu. Le fameux décret 770 a interdit pendant plus de 10 ans les avortements. Sans aucun moyen contraceptif disponible et sous l'influence de cette loi, les femmes roumaines ont eu recours à des avortements clandestins. Ces pratiques ont entraîné d'innombrables décès et leur histoire a été racontée par Christiane Mungiu dans son film « 4 mois, 3 semaines et 2 jours » primé en 2007 avec la Palme d'Or. Merci. Au début des années 90, on a compté jusqu'à 3 interruptions volontaires de grossesse pour une naissance. Et malheureusement, encore aujourd'hui, l'avortement reste pour les femmes la principale façon de contrôler leur sexualité.
Paradoxalement, nous préférons faire des avortements alors que nous sommes un peuple religieux. La majorité des femmes de plus de 35 ans ont déjà 3 ou 4 avortements, voire plus. Cette situation est très répandue, même chez les jeunes femmes avec des études supérieures. À peu près toutes les femmes roumaines ont avorté au moins une fois.
Après la Révolution, une libéralisation des méthodes de contraception a eu quand même lieu. À présent, l'État permet l'avortement et a développé de nombreux services de planning familial. Mais son erreur a été de ne pas avoir investi dans l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, ces services restent très peu utilisés.
L'éducation sexuelle à l'école, la Roumanie est encore en retard dans ce domaine. Et c'était un reportage de notre correspondante Miraela Carbonaru. Pour terminer, signalons que sous le slogan « moins de paperasse, moins de bureaucratie », le gouvernement espagnol va dépoussiérer son administration. La chasse aux doublons est lancée, une seule entité sera désormais dédiée au commerce extérieur par exemple. Bruxelles a demandé à Madrid de réformer son secteur public pour rendre son économie plus compétitive. Une tâche délicate pour le Premier ministre Mariano Rajoy. 17% des salariés espagnols sont des fonctionnaires. La restructuration doit s'étaler jusqu'en 2017. Voilà, c'est terminé pour cette brève page Europe. Si vous voulez suggérer un thème pour cette émission, vous pouvez nous adresser un courriel à français@dw.de. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur Facebook. En attendant de vous lire, bonne suite de programme sur les ondes de la Deutsche Welle.